Eh bien, on arrive ainsi à une situation où justement à cause de la démesure, c'est-à-dire à cause de la multiplication alliée à l'accélération, eh bien règne, comme on vous le disait tout à l'heure, la quantité, certes, mais par-dessus le marché. Je crois qu'il faudrait retourner le fameux argument de Marx et de Staline, qui disent dans leur théorie, pour rester matérialiste et pour tout de même, eh bien, garder, pour rester scientiste, pour rester quantitatif et garder une apparence de spiritualité, eh bien, il y a cette loi dont ils ont tiré beaucoup d'effets, que la quantité, quand elle change, enfin, quand elle se développe, la quantité se change en qualité. Bon. Eh bien, on pourrait retourner la loi et dire que dans une certaine forme de civilisation mal entendue, c'est exactement le contraire qui se produit et c'est la qualité qui tourne en quantité, qui vire à la quantité. C'est d'ailleurs trop évident. Toutes les fois qu'un plaisir, qu'un élément de culture, enfin n'importe quel phénomène hautement qualitatif, dès que nous le répétons trop souvent et à un rythme de plus en plus rapide, eh bien, il devient quantitatif. Le fumeur qui a une volupté à fumer une cigarette ou deux cigarettes, s'il en fume 60 par jour, eh bien ça devient 60 cigarettes. Et le plaisir a pratiquement disparu. Et si vous buvez 40 verres de whisky, eh bien le chiffre 40 est plus important que le parfum du whisky à ce moment-là. Et dans un voyage, c'est exactement la même chose. Si vous allez à 1000 km à l'heure, eh bien que voulez-vous, de navillon, vous contemplez une carte qui se déplace sous vous. Oui, il reste surtout les kilomètres. Oui, quelques beaucoup c'est de soleil sur la mer, c'est vrai, quelquefois. Mais enfin, ceci mis à part, ou quelques jets de nuages. Enfin, ceci mis à part, il reste surtout les kilomètres. Et c'est pour parcourir les kilomètres qu'on le fait. Or, ainsi, dans un tas de domaines, la quantité, la qualité tourne à la quantité. On dirait d'une certaine manière que le temps est violé et que le temps des horloges, en quelque sorte, le temps des horloges qui règne le monde des machines, que le temps des horloges élimine le temps intérieur dont parle Bergson dans sa fameuse antithèse entre le temps extérieur et le temps intérieur, et que le temps des horloges nous rentre dans la peau d'une certaine manière, oui. Et nous dénature, oui. Et naturellement, la massification, la planification sont toujours le tombeau de la qualité et de la diversité, que voulez-vous. Dès l'instant que vous êtes dans les grands nombres, dès l'instant que vous fabriquez des vins standards, ils se ressemblent tous, le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont ni bons ni mauvais à partir d'un certain nombre de millions de bouteilles, oui. Dès l'instant que vous construisez des ensembles d'habitations pour des milliers de personnes, eh bien, naturellement, elles se ressemblent toutes. Pour la mode, c'est exactement le même phénomène. Dès l'instant qu'il y a une mode standard, eh bien, par définition même, eh bien, elles se ressemblent. Cela évoque ce conte charmant de Colette, où un jeune homme attend sa petite amie à une bouche de métro. Et puis, ma foi, comme elle se fait attendre, il en sort beaucoup. Et il croit la reconnaître à chaque instant parce qu'elles ont toutes le même minois, le même phare, la même coiffure. Et puis, finalement, quand elle sort, il se dit qu'elle ressemble étrangement aux autres. Il a failli s'y tromper une quarantaine de fois au moins, oui. Ah, ouais. Et bon. Oui. Eh bien, je crois qu'on arrive ainsi par là à l'homme, comment dirais-je, à l'homme passif, à l'homme conditionné, à l'homme sans initiative, oui. Et au fond, la démesure ne peut mener que là, c'est-à-dire au grégarisme de l'opinion, au grégarisme des actes, aux influences mécaniques substituées aux influences vivantes, aux influences organiques, au climat dans lequel vit un homme, voyez-vous. Notre ami Massis nous le disait tout à l'heure, car nous avons déjeuné ensemble, au fond, la culture, ce n'est pas tellement un bourrage de connaissances, un gavage, une espèce de choses. Ce n'est même pas, ça ne se mesure même pas à l'intensité du travail. C'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est un climat où rien qu'en respirant, rien qu'en étant dans cette atmosphère, rien qu'en causant de la façon la plus libre possible, eh bien, on respire quelque chose de réel. L'homme s'accomplit presque sans s'en apercevoir, oui. Eh bien, ces choses-là ne peuvent pas subsister dans un climat de démesure. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, eh bien, cet homme passif, conditionné, éprouve un tel besoin d'évasion partout. Oui. Et d'évasion, pourquoi? Parce qu'il est mal à l'intérieur de son temps, de ce temps vécu qui est remplacé par un temps abstrait et par un temps mécanique. Alors, voyez-vous, toutes les aberrations par lesquelles l'homme essaie de s'évader, essaie de se dépasser, montrent très bien qu'il n'a pas pu s'accomplir. Regardez certaines formes aberrantes de l'art, oui. On veut créer un nouvel art, soit en poésie, soit en peinture, en étant biscornu, en retournant les mots, en intervertissant les couleurs et les formes. Seulement, ce n'est pas le domaine où on peut se dépasser. C'est très amusant, l'art abstrait, ou l'art, enfin, qui brouille toutes les catégories. Mais que voulez-vous? Que nous le voulions ou non, en peinture, nous sommes quand même captifs des formes et des couleurs, oui. Vous avez beau mettre des triangles ou des cubes à la place des rotondités, par exemple, ou des rotondités à la place des triangles et des cubes, vous restez toujours dans les formes, vous restez toujours dans les couleurs. Et vous n'arrivez qu'à l'aberration et non pas à la création. Oui, on ne peut pas mettre l'infini dans le fini, oui. Eh bien, dans l'ordre moral, c'est exactement la même chose, oui. Et ce vide intérieur, et cela explique peut-être certains phénomènes très curieux dans notre époque, une certaine immoralité en particulier, car l'homme ayant perdu l'issue du côté de l'infini et en même temps n'étant pas accompli, eh bien cherche une issue à son instinct d'infini, eh bien dans l'illégalité en quelque sorte, surtout dans un monde où il est de plus en plus parqué, de plus en plus conditionné, où comme nous le disions à l'instant, le risque et l'aventure ont pratiquement disparu. Ce serait encore des valeurs à restituer, cela. Il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine, oui. L'homme, eh bien, n'a plus d'issue à son instinct d'aventure, à sa soif d'inconnu, que sais-je encore. Et alors, quelquefois, cela expliquerait peut-être les aberrations d'une certaine jeunesse, oui, qui n'ayant plus de porte ouverte vers l'aventure et vers le risque, eh bien, se précipite vers l'illégalité, parce que c'est au fond la dernière issue, on ne lui a plus donné le vrai infini. Tenez, un avocat suisse me racontait une chose extrêmement curieuse qui m'a fait longuement réfléchir. Il a reçu un client un jour, il plaidait du moins, pour un brave homme, un syndic du canton de Vaud, c'est-à-dire en maire. Homme honorable depuis plusieurs générations, comme on peut l'être en Suisse, n'est-ce pas? Et ce brave paysan syndic de son village a été pris, enfin en flagrant délit, ou du moins son lait, a été trouvé mouillé. Alors vous vous rendez compte, mouillé du lait dans la République helvétique. Enfin, vous vous rendez compte, bon. Enfin, c'est le déshonneur majeur, où il aurait tant valu faire un attentat à la pudeur, enfin bon, atroce, oui. Et alors, l'avocat était assez surpris et lui a dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? Un peu psychanalysé, si on peut dire, car ça lui rapportait entre 30 et 40 centimes suisses par jour, cette histoire-là. Alors donc, l'intérêt même ne jouait pas, bon. Et alors, il a fini par lui faire avouer, et l'homme en a pris conscience, qu'au fond, dans ce monde bien réglé, parce qu'en Suisse, enfin, vous comprenez, qu'elle soit alemannique ou non, eh bien, allez-y, nordung, hein, pour dire tout est en ordre, pour dire tout va bien, ou c'est parfait, ou c'est comme ça. Enfin, il n'y a pas, tout est bien ordonné, tout est bien catalogué, enfin, ainsi de suite. Bon, eh bien, dans ce monde-là, eh bien, ce mouillage de lait, il a fini par l'avouer, ça lui donnait le frisson de l'inconnu, le frisson de l'aventure, sentait la morsure, une morsure délicieuse de quelque chose qui était au-delà, quoi. C'était sa manière de se dépasser. Il n'en avait pas d'autre. Eh bien, on pourrait se méfier que cela puisse se généraliser un peu dans un monde où l'homme, eh bien, tout en étant démesuré, eh bien, est démesuré d'une manière passive, son surmenage est passif, si on peut dire, et alors, naturellement, il ne peut s'évader que vers ce qu'il y a de moins bon en lui. Et pendant ce temps, pendant que l'homme se livre à la démesure dans le domaine de la quantité et dans le domaine de l'avoir, pendant ce temps, le monde intérieur reste déserté, les vraies facultés de l'infini s'étiolent et, comment dirais-je, en déviant vers la démesure. Eh bien, vous me direz, car notre temps n'est pas infini et il faut conclure, vous me direz quel remède verriez-vous? Vous devez bien comprendre que dans un tel domaine, on ne peut pas présenter des remèdes qui pourraient se doser comme un café d'aspirine, que tout dépend des temps et des lieux, et que le remède, c'est le génie de chacun qui doit le trouver suivant sa pente naturelle. Eh bien, je vous dirais d'abord ce qui me paraît capital, c'est ne pas se laisser faire, oui. Savoir choisir, savoir dominer la conjoncture, savoir d'abord réagir contre cette passivité. Cette espèce de passivité, d'ailleurs, qui nous est inoculée par un certain mythe du progrès, qui nous dit, ben, mon Dieu, pourvu qu'on avance vite, eh bien, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, pour les marxistes, c'est le sens de l'histoire, et pour certains chrétiens, c'est Dieu qui l'a voulu. On a l'impression qu'on est embarqué, eh bien, dans une machine où l'accélérateur tient lieu de volant. Pourvu qu'on aille de plus en plus vite, on est sûr qu'on va dans la bonne direction. temps. Eh bien, ce n'est pas certain, il faut se fixer un but, il faut avoir une conception de la nature de l'homme. Je parlais il y a 8 jours dans une petite ville de France de ce que la télévision pouvait apporter de méfait en fait de passivité, ces hommes qui se laissent faire par les images. Un brave petit vicaire est venu me trouver, il m'a dit, mais j'ai l'impression que vous avez raison, mais la télévision est voulue par le bon Dieu. Je lui ai dit, ni voulu, ni pas voulu, sans doute. Enfin, d'abord, la télévision n'y est pour rien, c'est l'usage que vous en faites, mais aussi le vin est voulu par le bon Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'on doit en boire du matin au soir, enfin. Et en allant par là, le bon Dieu a voulu aussi les punaises et les moustiques et les rats, ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent proliférer à l'infini, vous comprenez. Ça n'a pas de sens, mais il y a un certain mythe d'un progrès nécessaire qu'il faut respecter à tout prix. Eh bien, voyez-vous, dans ce débordement universel, on vous l'a dit également, je m'excuse de répéter ce qui a été dit, mais je crois que ce qui est central, c'est de s'accrocher avant tout aux invariants. Et je dis aux invariants, et on vous a dit également, il ne s'agit pas de s'attacher à n'importe quoi d'une tradition, il ne s'agit pas de s'attacher à ces éléments caducs, à ces éléments surannés, qui la plupart du temps, d'ailleurs, sont les plus récents, oui. Il y a certaines traditions eh bien, qui datent à peu près d'un siècle et qui voudraient passer pour éternelles. Il faudrait en quelque sorte rester fidèle à l'intériorité de la tradition, à ce qu'elle a d'essentiel, à la sève et non pas à l'écorce. Oui, car les écorces sont caduques et les écorces doivent se renouveler. Eh bien, pour vous donner 2 grandes lignes de force, car il est impossible d'entrer dans le détail, les 2 grands invariants auxquels nous avons de plus en plus besoin de nous raccrocher dans ce monde du minéral d'une part et de l'idéologique de l'autre, de l'idéologique qui n'est pas l'idée, car l'idéologie en général fleurit sur le tombeau de l'idée, comme chacun sait, comme le libéralisme sur le tombeau de la liberté, ainsi de suite. Eh bien, ces invariants sont de 2 ordres. D'une part, voyez-vous, la réalité élémentaire. Ça ne change pas au moins, c'est quelque chose. Ça ne change pas et ça se renouvelle toujours. Ça ne change pas et ça ne vieillit pas. La vie, 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 ça ne vieillit pas. La vie. La vie, la nature, la famille, l'incarnation de l'être humain dans le temps et dans l'espace, le même soleil, eh oui, les mêmes fleurs, les mêmes printemps. Eh bien, ces choses-là ont l'avantage d'être à la fois permanentes et toujours nouvelles. Alors, je crois qu'un retour à l'élémentaire est nécessaire à l'homme moderne, comme une sorte de bain vivificateur. Quand une bonne mère me disait un jour, regardez comme les enfants sont intelligents aujourd'hui. Mon petit, il distingue déjà 5 marques, entre 5 marques de voiture, rien qu'à voir leur bec. Et alors, je lui ai dit, mais c'est très bien. Je lui ai dit, aucun inconvénient, notez bien. Je lui ai dit, mais combien distingue-t-il de 100 d'oiseaux? Et combien distingue-t-il de plantes? Alors là, il ne distinguait rien. Alors le moins qu'on peut dire, c'est que tout de même, le rossignol sera plus durable que la Cadillac ou que la Peugeot, que voulez-vous. Enfin, une hiérarchie des valeurs, d'ailleurs. Les voitures, c'est excellent, mais enfin, il faut tout de même savoir de quoi on parle. Bon. Et puis, à côté de cela, voyez-vous, à côté de l'élémentaire et au-dessus, le transcendant, c'est-à-dire le beau, le vrai, le bien, et le divin et Dieu, oui. C'est cela, au fond, le vrai, comment dirais-je, le vrai règne de l'infini, oui. C'est cela la vraie réponse à l'instinct d'infini qui est en nous, oui. Le lieu où l'homme se dépasse, le lieu où l'homme se dépasse efficacement, car il est fait pour se dépasser, mais dans une autre dimension, une dimension qu'il ne peut ni créer, dont il ne peut pas forcer l'entrée, où il ne peut que recevoir, à condition d'être pur et d'attendre. La réponse à la soif d'infini et d'inconnu qui est en lui. Et il est difficile de parler de ces choses, voyez-vous, parce qu'elles sont ineffables, parce qu'elles ne peuvent être que vécues. C'est ce qui rend un peu pénible le rôle du philosophe qui parle des valeurs de l'âme. Car si vous exposez des choses scientifiques ou bien une courbe de productivité, eh bien quand on parle de cela, on ne peut que convaincre tout le monde. C'est une question de chiffres, de diagrammes, de preuves. Tandis que quand on parle des valeurs de l'âme, eh bien, on ne peut convertir que des convertis. On ne peut toucher que ceux qui vivent déjà cela, qu'ils portent en germe. Sinon, que voulez-vous, aller parler d'amour à quelqu'un qui n'a jamais été amoureux? On vous dira que vous êtes fou. Allez parler de musique à quelqu'un qui ne distingue pas une mélodie de Mozart d'un bruit de casserole entre-heurtée. Eh bien, alors là, dans ce cas-là, il faut que l'autre puisse éprouver ce que nous disons. Il faut qu'il y ait connaturalité. Sinon, on ne peut que prêcher dans le vide. Et d'autant plus, et en plus, eh bien, cela s'exprime très difficilement avec des mots. Mais enfin, justement, quand un père de l'Église grecque appelle Dieu l'au-delà de tout, et dit qu'on ne va à Dieu que par des commencements sans fin, il marque très bien cette possibilité de dépassement qui est en nous. Oui. Alors donc l'homme ne se dépasse pas par l'avoir, par l'extérieur, il ne se dépassera pas par la conquête du cosmos, car le cosmos tout entier, Pascal l'a dit une fois pour toutes, c'est beaucoup moins qu'une âme. L'homme ne peut se dépasser que de l'intérieur, dans ce domaine qui est de notre ordre, dit le même Pascal. Et cela, voyez-vous, s'offre à tous les hommes, dans tous les temps, dans tous les lieux, et à travers toutes les brumes de l'époque, toutes les idoles de l'époque. C'est une grande consolation de savoir que quoi qu'il arrive, si nous sommes assez purs, il y a un capital de valeurs éternelles qui seront toujours à notre disposition. Je crois qu'il faut croire de toutes nos forces, et la chose a été prouvée, que l'homme n'est pas conditionné par l'histoire, il l'est en partie, mais il y a ni par l'histoire ni par le social, il y a en lui quelque chose, eh bien, qui émerge. Le théologien protestant Binet l'a dit admirablement, en parlant de la société et du temps, eh bien, qui sont par rapport à l'homme ce que le bateau est à la mer. Eh bien, une partie du bateau, ce que la mer est au bateau plutôt, une partie du bateau plonge dans la mer, et s'usée aux orages de la mer, peut faire naufrage dans la mer, certes, mais une partie du bateau émerge au-dessus des flots, et le bateau a été lancé de la terre ferme, et il a un port également dans la terre ferme, c'est-à-dire au-delà des flots du temps, oui. Eh bien, je crois que ceci est essentiel, cela montre à la fois la dépendance et l'indépendance de l'homme vis-à-vis du temps. Ah, naturellement, on peut faire naufrage, le bateau peut faire naufrage. Et Binet concluait en disant, de même que les bateaux font quelquefois naufrage dans la mer, beaucoup d'âmes naufragent dans le temps et dans le social, et il est bien vain de demander de quel côté le naufrage est le plus nombreux. Ouais. Évidemment, c'est du côté de l'homme, mais enfin, il reste que nous avons quelque chose en nous qui domine le temps et qui peut toujours retrouver l'éternel. Et toutes les fois que nous sentons vraiment la beauté, que nous sentons la grandeur, que nous sentons la charité, c'est quelque chose d'incarné dans le temps, mais c'est quelque chose qui est au-delà du temps, oui. Il y a des chefs-d'œuvre de la peinture qui, évidemment, marquent, sont marqués par leur temps, mais uniquement dans un certain conditionnement extérieur. Mais il sera impossible, sans cela, de dire à quelle époque ils ont été faits. De même certains vers, de même certaines pensées. Dès l'instant qu'il y a un contenu vraiment humain, ce contenu a la couleur de son temps, mais échappe au temps par sa substance. Oui, je crois que c'est capital, et cela, nous l'avons à toutes les époques à notre disposition, oui. Seulement, il est plus ou moins difficile de l'atteindre. C'est pourquoi nous ne serons pas excusés par notre époque, oui. Quand nous disons, oh mon Dieu, ben, ces choses-là étaient de leur temps, ben, ces hommes-là, donc, ils sont excusables. Ils le sont peut-être en partie, mais enfin, on peut s'élever au-dessus de son temps. Mais oui. Ne l'oublions pas, et il y a des penseurs dans l'Antiquité, alors que tout le monde considérait l'esclavage comme légitime, qui s'étaient élevés au-dessus de l'esclavage, qui pensaient très bien que l'esclavage pouvait avoir une utilité sociale, il l'avait à l'époque, ou une utilité politique, mais que l'esclavage était une absurdité métaphysique. Quand on reprochait à Sénèque, qui était attablé avec ses esclaves, eh bien, et que pour le pousser à bout, on lui a dit, mais enfin, est-ce que tu mangerais avec tous les esclaves? Parce qu'en effet, il y avait des esclaves qui n'étaient pas fameux. Il a répondu sûrement pas. Mais pas avec tous les sénateurs non plus. Ah ouais. Eh bien, ce serait répété quelquefois, il a montré par là l'identité de la nature humaine, oui. Ces choses-là sont offertes dans tous les temps et dans tous les lieux, ce qui faisait dire à Madame de Maintenon ce mot admirable que nous devons méditer. Madame de Maintenon a écrit quelque part quand quelqu'un justement disait que ces vices étaient à la mode à l'époque, et là ce mot qui est d'ailleurs sensationnel, le torrent de la coutume n'excusera personne. Je ne crois pas que c'est admirable, et bien donc il y a en l'homme quelque chose qui émerge au-dessus du temps et au-dessus de l'opinion. Eh bien voilà donc les deux axes, je crois, de notre combat. Et cela se fera, que voulez-vous, par quel cas, 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 que voulez-vous, et à travers les erreurs, les folies, les excès de l'époque. Et cela devra se faire plus librement qu'autrefois, car autrefois les milieux sociaux étaient porteurs de valeurs profondes, et bien de traditions dans toutes les classes sociales, dans tous les pays, dans toutes les nations. Et maintenant, avec la rapidité des échanges et le brassage des populations, ces milieux porteurs de traditions sont largement diminués, et bien cela devra se recréer lentement et librement, oui. Il faut en quelque sorte régénérer la société, la renoyauter du dedans, refaire l'homme de bas en haut, si on peut dire. Oui, le refaire comme il est, comme un être fini, dont la vocation est l'infini, sans brouiller les étages et les niveaux. Et on vous parlait tout à l'heure, et je voudrais dire cela avant de finir, on vous parlait tout à l'heure du nombre, de la masse, oui. Eh bien, c'est également le grand problème de notre époque, cette masse où tous les hommes finiront par se ressembler tous. C'est le grand problème de la planification, oui. Un planiste un jour à qui je parlais de toutes ces choses, et à qui je parlais de la liberté en particulier, m'a dit cette parole, qu'on a d'ailleurs souvent répété, à quoi bon la liberté si on n'a pas de pain? On pourrait aussi répondre à quoi bon le pain si on n'a pas la liberté, enfin, tout le problème reste là, c'est l'éternelle ambivalence de l'homme. Et tout de même de cette nécessité de retrouver tout de même, de cette nécessité de retrouver tout de même, de cette nécessité de retrouver tout de même, de cette nécessité de retrouver dans son milieu, suivant ses dispositions qui n'appartiennent qu'à lui ou à ce groupe. Alors il m'a regardé, mais m'a dit, mais mon pauvre monsieur Thibon, mais... quand est-ce que vous déciderez à sortir du Moyen-Âge, tout de même, enfin. Est-ce que vous avez regardé la courbe de la... Est-ce que vous avez regardé la courbe de la natalité, enfin? Est-ce que vous savez combien nous serons d'hommes en l'an 2000? Je lui dis vaguement, oui. Et en l'an 2050? Et vous vous imaginez qu'on a le temps de s'occuper de fariboles estimables, comme l'âme, l'épanouissement, l'infini, le contact humain, le... que sais-je encore quand il s'agit de trouver du pain, un toit et un emploi à tous ces hommes-là? Ce n'est possible que par la planification intégrale, c'est-à-dire en traitant les hommes comme des choses. Et comme ça, ils mangeront. Et puis le reste, on verra après. Alors moi, comme je ne suis pas technocrate et comme je ne suis pas du plan, vous comprenez, eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure il est possible de faire manger les gens, eh bien, sans employer de pareils procédés. Mais si vraiment de pareils procédés étaient nécessaires, et s'ils étaient absolus, et s'ils devaient durer longtemps, s'ils devaient être autre chose qu'une transition pénible, seulement rien ne s'installe mieux que les états transitoires, vous comprenez. En Russie, on en est encore à attendre le dépérissement de l'État, vous comprenez, l'État se porte fort bien, hein, il ne s'était jamais si bien porté, bon, et dans bien d'autres pays aussi, bon. Eh bien, alors, si vraiment on en était là, alors nous pourrions appeler de tous nos voeux la fin du monde, oui. Eh bien, je crois qu'au fond, la grande tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre, c'est de la tâche de notre époque, ce nombre. Mesdames, Messieurs, on vient de prononcer ici un mot qui m'est très cher, le mot de fidélité, vertu qui fut toujours difficile, qu'il est davantage à l'époque de l'accélération de l'histoire, tout naturellement, et pas par la faute des hommes. Eh bien, notre présence ici, Henri Massis et à moi, est un témoignage de fidélité, puisque ce n'est pas la première fois que nous parlons à cette tribune. Et nous continuerons donc le dialogue entamé il y a quelques années. On m'a demandé de traiter le sujet suivant, faut-il dépasser l'homme ou l'accomplir? Et à essayer de poser, brièvement bien entendu, car le temps nous est mesuré, les conditions d'un nouvel humanisme qui ne peut pas être autre chose d'ailleurs que l'humanisme éternel adapté aux conditions d'un temps. Ce que sera l'avenir, je n'en sais rien. Je crois que les hommes jouent trop facilement aux prophètes, tantôt prophètes noirs d'ailleurs, tantôt prophètes roses, car quand les hommes prédisent l'avenir, avez-vous remarqué qu'ils prédisent en général des choses merveilleuses, une sorte de tapis roulant ou d'escalier automatique qui nous élève vers la béatitude ici-bas déjà, ou bien des catastrophes sans nom, ouais, noires ou roses? Oui. Eh bien, les uns, les premiers, les prophètes roses répondent à nos instincts de paresse et de bonheur à bon marché. Les autres répondent à nos instincts de tragédie ou de ressentiment, car il y a des complaisances et même des concupiscences apocalyptiques dans l'homme, oui. Mais dans les deux cas, il y a tout de même un réflexe de démission, c'est que l'homme se sent devant l'inévitable, devant un fatum, soit bien heureux, soit accablant, dans lequel il n'a pas à intervenir, et ainsi le fardeau de la liberté s'évapore. Or, Dostoïevski le disait déjà, les hommes n'ont pas de plus cuisant souci que de se débarrasser de leur liberté. Ce qui est bien certain, eh bien, c'est que l'avenir sera ce que nous le ferons. Si nous parlons d'un nouvel humanisme, c'est d'un humanisme qui tienne compte de l'homme, d'une nature certes infiniment plastique, infiniment malléable, riche en possibilités de toutes sortes. Le même Dostoïevski disait que l'homme est un animal qui s'habitue à tout, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il gagne à prendre n'importe quelle habitude ou que n'importe quelle transformation lui soit favorable. Nous ne croyons pas que quoi qu'il fasse, l'homme sera nécessairement sauvé, quoi qu'il fasse et quoi qu'il se permette, comme le prétendent les optimistes de type athée pour qui l'histoire s'identifie à la divinité, ou même certains optimistes de type chrétien, eh bien, qui appellent la grâce au secours là où il aurait fallu regarder les événements, organiser et diriger la nature. Oui. Il y a une façon de se reposer sur Dieu qui me paraît un peu inquiétante, car si dans l'ordre surnaturel, l'homme ne peut rien faire sans Dieu, il est bien évident que dans l'ordre naturel, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Oui. Quand on...